Et pendant que ça se fait, moi j'avais envie de vous dire, je ne sais pas si vous êtes comme moi, moi je me suis dit quand on m'a dit c'est la conférence que tu vas faire, je me suis dit je ne sais pas si je vais rester jusqu'à la fin de cette table ronde parce que moi il y a un truc que je déteste, c'est qu'on me spoile les livres. donc là, le coup de parler des surprises et des coups de théâtre, c'est un petit peu prendre le risque de tout d'un coup vous révéler pour ces auteurs qui écrivent, il me semble bien, dans des livres basés dans l'action. Est-ce qu'on ne prend pas le risque à un moment de se dire un peu des choses en trop? On va voir, on va essayer. En tout cas, sachez que moi, je vous spoil le moins possible. Donc, s'il y a quelqu'un qui le fait, ça sera eux. Voilà. je vous mets le poids sur la responsabilité sur vous, comme ça, c'est fait. Alors, est-ce qu'on peut parler des rebondissements, justement, que vous proposez à vos lecteurs sans ruiner l'effet de surprise que vous avez mis du temps, j'imagine, à construire? Qu'est-ce que c'est pour vous un bon récit? Et est-ce que justement l'effet de surprise en fait absolument partie? Est-ce que c'est une chose sans laquelle vous ne vous verriez pas écrire un roman intéressant? Je sais que le premier, ça va être dur, hein, mes questions sont toujours un peu compliquées. Si vous voulez plus simple, allons-y. Hein.
Je vais me lancer. C'est bon au niveau du son là?
Ouais.
Okay. C'est bien d'avoir mis le micro parce que c'est un petit peu compliqué. Bonjour à tous, donc Loïc Henry. Je pense que ça dépend des auteurs en fait. Il y a des romans où il n'y a pas forcément de, que ce soit en science-fiction ou en littérature fantastique, fantasy ou même en littérature générale, il y a des romans où il n'y a pas forcément de rebondissement à l'intérieur. On est plus plongé dans des atmosphères, j'ai envie de dire, dans des péripéties, mais sans qu'il y ait vraiment de surprise. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose pour le héros, pour les héros, pour les différents personnages. La surprise n'est pas en soi indispensable, je pense. Ça c'est d'une manière générale. Il y a énormément de livres, en particulier quand vous réfléchissez à ce que vous avez lu en littérature classique, il y a beaucoup de livres où il n'y a pas tant que ça de rebondissement en vérité. Alors maintenant pour mon propre cas, je ne sais pas ce qu'il en est des autres qui vont nous dire après. Je suis assez curieux d'entendre la réponse d'ailleurs.
Ils sont en pleine réflexion.
Je prends un peu la pression aussi. Et dans mon propre cas, vous savez, je ne conçois pas d'écrire de romans ou même de nouvelles, peut-être même encore plus de nouvelles, sans rebondissement et sans surprise. Pour moi, c'est très égoïstement, j'écris ce que j'aime lire, et j'aime lire des livres où il y a des rebondissements, où à un moment je suis pris à contre-pied, à un moment j'ai l'impression d'être tranquille en sécurité, je me fais faucher d'un seul coup. Ça c'est ce que j'aime lire, et donc c'est ce que j'aime écrire en fait. Donc, pour mon cas personnel, je ne conçois pas en effet l'écriture sans rebondissement et sans surprise et sans chute finale aussi. J'irai même un peu plus loin, aussi bien pour les nouvelles que pour les romans.
On parlera de la chute après.
D'accord. Bon, en gros, je vais confirmer ce que tu viens de dire. Avec quand même, je sais pas, une petite nuance. Bon, on écrit dans le domaine des littératures de l'imaginaire. Et je crois que l'effet de surprise, le coup de théâtre, etc., ça fait partie des codes du genre. Donc d'une certaine façon, le lecteur s'attend fatalement à ce qui est à ce qu'on en trouve. Ce qui peut d'ailleurs présenter un risque, c'est qu'à force d'en attendre, et à force que le lecteur se sente obligé d'en mettre, on tombe cette fois dans une espèce de stéréotype, de cliché, ce qui du coup ruine un peu l'effet de surprise. Pour ma part, alors aussi bien dans mon roman jeunesse, le projet Abraxa, pour lequel je suis invité, que dans mes précédents romans, qui sont aussi des romans de SF pour adultes, moi j'ai toujours construit mes récits sur, alors je dirais pas forcément le coup de théâtre, mais en tout cas sur la fausse piste. Moi j'embarque mon lecteur sur une voie qu'il pense être bien balisée, parce qu'il a déjà lu plein de livres sur le voyage dans le temps, il a vu des films de science-fiction sur le sujet, il pense être en terrain connu, et tout le challenge pour moi c'est d'arriver à le surprendre quand même. Donc lui donner ce qu'il attend, et puis amener des espèces d'aiguillages, et pour finir faire en sorte qu'il soit réellement surpris à la fin. C'est-à-dire qu'au final, le livre qu'il a lu n'est pas celui auquel il s'attendait. Alors évidemment, ça passe par un certain nombre de rebondissements. Certains sont prévisibles, d'autres, je crois, sont plus inattendus. En tout cas, c'est le gros travail que je fais là-dessus. Et je ne parle pas de la chute, puisque tu as des questions sur le sujet, donc je m'arrête là.
Merci de ménager le suspense. Oh, Olivier, ah oui.
Alors,
surtout vous qui n'écrivez pas que dans l'imaginaire, mais aussi dans le thriller,
oui.
Est-ce que justement, est-ce qu'on peut passer d'un genre à l'autre en amenant, parce que dans le thriller, c'est quand même une constante, la surprise et le coup de théâtre, peut-être. Est-ce que ça s'amène d'un genre à l'autre, justement?
Je pense que vous... Ça va, le micro marche?
Oui,
c'est bon. Je pense qu'en fait, c'est de plus en plus important aujourd'hui. Et moi, je suis vraiment content qu'il y ait plein de monde dans la salle, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui lisent et que vous êtes tous passionnés de lecture. Mais on voit aujourd'hui qu'évidemment, il y a de plus en plus de médias, de plus en plus de biais qui remplacent la lecture. Les gens sont de plus en plus sur leurs ordinateurs, sont de plus en plus sur leur téléphone. Pourquoi je fais cette parenthèse? Parce que du coup, si on veut intéresser les gens, si on veut réussir à les passionner dans cette culture qui est un petit peu une culture du zapping en ce moment, il faut leur donner vraiment l'envie de tourner les pages. Et c'est vrai que c'est très important d'avoir des twists finales, c'est vrai que c'est très important d'avoir des surprises au cours du roman, mais j'irais même plus loin, j'ai envie de dire qu'à la fin de chaque chapitre, vraiment essayer de surprendre les gens, essayer de leur donner envie de lire la suite, parce que sinon, bah, y a une nouvelle émission qui va sortir, il y a un nouveau livre qui va sortir, et l'objectif c'est vraiment d'entraîner les gens et de leur donner envie de rester avec nous et de savoir la suite. Dans le thriller comme dans la fantasy, évidemment.
Antoine.
Waouh,
tiens, j'ai deux micros.
Bonjour. Oui, effectivement, il y a ce phénomène aussi un petit peu d'attente du lecteur maintenant. Nous, et principalement dans le genre, il y a un lien qui s'est beaucoup fait avec plein d'autres médias et notamment les séries télé. Il y a une écriture très particulière dans la série télé anglo-saxonne qui faisait que pour garder l'attention, à la fin de 15 minutes à peu près, avant la coupure pub, on terminait sur un petit rebondissement. Et ça fait quand même maintenant 30 ans que cette écriture est relativement similaire. Le genre s'est, je pense, beaucoup aussi imprégné de ça, aussi bien dans le polar, dans le thriller que dans la fantasy. Du coup, on est, nous aussi, un petit peu les enfants de cette génération télé. Et je pense que, nourri à cette façon de raconter une histoire, on le reproduit, peut-être même parfois inconsciemment, dans notre façon d'écrire. C'est-à-dire de garder toujours le lecteur en alerte. C'est pas forcément mettre en avant des coups de théâtre, mais c'est à chaque fois faire un rebondissement qui va... au moins recapter l'attention si on a peur de l'avoir perdu, en fait.
Vous avez évoqué le fait d'une envie de surprendre le lecteur, mais est-ce que vous, en tant que concepteur de cette surprise, est-ce que vous, ça vous arrive d'être surpris vous-même par votre récit? Est-ce que votre histoire vous emmène parfois sur des pistes que vous n'aviez pas prévues? Est-ce que les personnages prennent dans votre esprit de créateur une vie propre qui fait que tout d'un coup, j'imagine, quand on crée pas, c'est toujours une question qui est vraiment importante. Est-ce que tout d'un coup le personnage se met à partir sur une voie que vous aviez pas prévue? Est-ce que vous êtes surpris quand vous écrivez?
Ah, j'aimerais répondre parce que ça m'intéresse beaucoup. Pour moi, c'est vraiment le mode de vie, c'est un mode d'écriture et je pourrais pas écrire autrement. C'est-à-dire que je désespère tous mes éditeurs parce que je leur donne un synopsis global de ce que je vais écrire et je m'en écarte complètement. Tout simplement parce que le matin quand je me réveille, je commence à écrire. Le soir, quand j'ai fini d'écrire, généralement j'ai pas du tout ce que j'avais prévu. Il y a des personnages qui prennent beaucoup plus de place. Dans mes romans policiers, il y a un personnage que j'avais créé toute pièce pour me sortir d'une situation dans laquelle j'étais un peu coincé et qui finalement a été le personnage préféré des lecteurs, et ça fait 3 romans qu'il est dedans. Dans Le Boucher, dans La Servante, pareil, des personnages qui étaient plutôt des personnages secondaires qui se retrouvaient à avoir un rôle, le personnage de la hâte, un rôle beaucoup plus important que ce qui était prévu à l'origine. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est très important, parce que surtout quand on en vit, surtout quand on est écrivain, il ne faut pas tomber dans l'alimentaire, il ne faut pas tomber dans le côté travail de bureau à écrire inlassablement. Et le fait de se surprendre à chaque fois et d'être surpris de ce qu'on écrit, pour moi, c'est la meilleure preuve de fraîcheur. Voilà.
Merci.
Alors, en fait, je crois que la question est intéressante et la réponse aussi, j'écoutais attentivement justement, parce que j'avais une discussion avec un autre auteur qui séparait les écrivains, alors un peu d'une manière un peu caricaturale, mais c'est quand même intéressant, entre les scripturaux et les scripturants. Un peu plus près.
Oui.
Okay. Entre les scripturaux et les structurants. Donc, pour faire très, très schématique, les scripturaux, c'est les gens qui écrivent et quand ils terminent leur journée ou leur moment d'écriture, bah, ils ne savent pas forcément ce qui va se passer pour leur personnage et même peut-être pour leur histoire. Les structurants, en cas extrême, on va dire, ils savent exactement où ils vont, par où ils passent, quels sont les schémas, quels sont les rebondissements et ainsi de suite. Donc, bon, je pense qu'il n'y a aucun qui est pur dans un sens ou dans un autre, mais c'est vrai que là, apparemment, ça serait plutôt dans une logique scripturale. Moi, c'est vrai que je suis dans une logique plutôt structurante, donc complètement différente. C'est-à-dire que quand j'écris un roman, pour Loire en particulier, bon, il y avait une intrigue qui était assez complexe, donc ça aussi explique peut-être cela, mais c'est vrai que j'avais une idée en démarrant quasi, bon, définitive, c'est peut-être un grand mot, mais quasi certaine du nombre de chapitres qu'elle allait avoir, de où allaient se passer les chapitres, et des endroits par où des espèces de jalons en fait, par où l'histoire allait passer, mais qui pouvaient se décomposer en un jalon tous les, je sais pas, entre 5 et 5 chapitres, ou ainsi de suite. Et une idée tout à fait précise de la chute. Et d'ailleurs, en l'occurrence, les chapitres, je ne les ai pas forcément écrits dans l'ordre. En fait. D'ailleurs, j'ai commencé par le chapitre 5 avant d'écrire les 4 premiers. Donc c'est vrai que je pense qu'on a, enfin, on a tous, d'ailleurs, heureusement, j'ai envie de dire, on a tous un mode de fonctionnement qui est assez différent. Alors maintenant, encore une fois, je pense que personne n'est pur. C'est-à-dire que je pense que toi, tu sais quand même un petit peu où tu vas finalement. Et c'est vrai que moi, même en ayant un chemin validé, je me laisse surprendre aussi par des personnages et même dans l'histoire, des choses que je n'avais pas forcément prévues au départ. Mais on va dire que la trame est peut-être plus dessinée dans mon cas que dans le tien.
Frédéric, quand on retrouve des personnages d'un roman à l'autre, justement, comment ça se passe ?
Alors ça peut se passer en fait un peu par hasard, puisque pour le projet Abraxa, j'avais pas prévu au départ que Emma devienne l'héroïne d'un livre à part entière. Donc c'est Flammarion qui est venu me trouver et qui m'a passé commande du livre, et donc le projet est né comme ça. Mais je voudrais d'abord rebondir sur ce que viennent de dire les deux précédents intervenants. Moi au départ, c'est vrai que je me croyais aussi faire partie de ce que tu appelles les structurants pour mon premier roman. En plus c'était mon premier roman, donc je sentais bien qu'il fallait pas que je me loupe. J'avais vraiment bouclé l'intrigue dans les moindres détails, j'avais tout retourné dans tous les sens, je pensais avoir les personnages, et en fait je me suis rendu compte que non, les personnages, quand pour moi, c'est devenu un de mes critères en fait, d'évaluation de mon travail. Si un personnage est réussi, bah, c'est justement un personnage qui crée des surprises et qui me surprend moi le premier, qui surprend l'auteur. C'est-à-dire qu'un personnage réussi, au bout d'un moment, il évolue tout seul. Il y a des choses qu'il ne peut plus faire, il y a des choses qu'il ne peut pas dire. C'est un peu lui qui décide de son devenir. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment découvert sur La Parallèle Alerteur, donc mon premier roman. Alors maintenant, du coup, je ne me situe plus dans cette optique structurante. Je me laisse beaucoup plus porter par le fil. Et j'adore justement être surpris par les personnages. En gros, maintenant, pour faire un roman, de la façon dont je fonctionne actuellement, qui peut encore évoluer d'ailleurs, j'ai la scène de début, j'ai une idée relativement précise de la fin. Et pour le reste, je ne sais pas. Pour le reste, ça s'improvise en cours d'écriture. Et c'est vraiment l'élément, cet élément de surprise au fur et à mesure de la rédaction, c'est quand même quelque chose qui fait partie intégrante et qui est peut-être même l'essentiel dans le plaisir d'écriture. Alors bien sûr, j'ai un cadre, bien sûr, j'ai des recherches historiques, je sais dans quelle époque je vais partir, puisque bon, je traite de voyage dans le temps, je parle beaucoup d'histoire. Mais à l'intérieur de cette époque, les bifurcations sont toujours possibles et les surprises sont toujours possibles. Et ça, c'est vraiment tout à fait exceptionnel. Alors, le personnage qui revient maintenant, pour revenir à ta question. Mes deux premiers romans adultes, je les avais conçus dès le départ comme un diptyque. Ils pouvaient se lire dans l'ordre qu'on voulait, mais les personnages, le sujet était le même. Et en gros, chacune des deux histoires devait éclairer l'autre. Donc forcément, dès le départ, je savais que tel ou tel personnage serait là sur les deux volumes, tel autre non, pas forcément. Alors ça implique un minimum de rigueur. Évidemment, ça pose des contraintes, parce qu'une fois que le premier volume existe, ça veut dire que le personnage, il est, je vais pas dire qu'il est figé, mais enfin, il y a des choses qu'il ne pourra plus faire. Il a déjà son caractère, il a déjà son identité, son individualité. Et du coup, on perd sans doute en liberté pour la création dans le volume 2. À l'inverse, alors le personnage qui est présent, enfin qui mène l'histoire dans le projet Abraxa, c'était un second rôle dans mon deuxième roman. C'est un personnage que j'avais pas particulièrement ébauché. C'était une ado, elle avait 14 ans à l'époque où se passe l'action. On sentait qu'elle avait un caractère relativement bien trempé et qu'elle faisait plutôt partie de l'ado modèle rebelle. Mais j'étais pas allé beaucoup plus loin que ça. Et du coup, la commande de Flammarion m'a poussé à m'interroger sur ce que pouvait être ce personnage et sur la dimension qu'il pouvait prendre. Et elle m'a surpris, là encore. Je l'ai politisé, ce qui n'était pas tellement prévu au départ. Ce qui d'ailleurs débouche aussi sur un modèle d'ado qu'on ne rencontre plus très souvent aujourd'hui, les ados politisés. J'en connais quelques-uns, j'en ai eu dans mes classes, mais c'est un modèle qui se fait plutôt rare, malheureusement d'ailleurs. Et ceci dit, elle m'a quand même énormément surprise. Et comme je le disais, ça fait partie du plaisir d'écriture. Donner naissance à quelqu'un, parce que c'est quelqu'un, le personnage, et ce quelqu'un finit par exister tout seul et par faire évoluer l'histoire tout seul, ça c'est magique.
Antoine, vos personnages ont-ils déjà pris le dessus sur vous ou pas encore? C'est Pierre Fével, il me semble, qui dit que lui, ses personnages, il les tient en main, qu'il n'est pas question qu'il fasse ce qu'ils veulent ou ce qu'il n'a pas prévu.
C'est le côté militaire de Pierre. oui et non, en fait, on leur donne... en tout cas, dans mon cas, dans La Voix de la Colère, je leur donne une structure. J'essaie de lier le fond et la forme, en fait, puisque ces personnages-là servent un propos également. Après, c'est peut-être par petites touches, il y a des traits de caractère qui vont s'affiner. Il y a des choses qu'on va sentir en fait au fur et à mesure de l'écriture. On va les voir, on va voir leur caractère peut-être justement se préciser jusqu'au moindre détail. Et c'est là où moi, en tout cas, ça m'a un peu surpris. Puisque je commence souvent par des archétypes, des choses assez grossières au départ, des traits assez grossiers, et au fur et à mesure, tout cela s'affine. Donc c'est comme si j'apprenais également à les connaître. C'est quand même assez ridicule puisque c'est moi qui les crée, mais voilà, effectivement, il y a toujours ce sentiment à un moment où l'histoire, ou en tout cas les personnages, nous échappent, ça, j'ai l'impression que c'est dans le processus créatif, de toute façon. C'est là où aussi où on se rend compte qu'un personnage est cohérent, parce qu'il prend vie réellement. Et c'est là aussi où ça nous étonne, parce que peut-être on s'étonne de créer des personnages qui finalement ont une vie entre guillemets crédible, même s'ils vivent dans un monde imaginaire avec des épées et qui combattent des dragons.
Alors, est-ce que l'écueil, moi, ce qui m'a semblé évident en parlant de ce sujet-là, est-ce que l'écueil du rebondissement ou du scénario qui tout d'un coup prend un tour inattendu, c'est pas la question du Deus ex machina? Est-ce que vous avez, il n'y a pas le risque quand tout d'un coup on a envie de faire bouger l'intrigue ou de la retourner complètement? Est-ce que il faut pas faire très très attention aux grosses ficelles qui donne à l'impression au lecteur, ah oui, ok, d'accord, j'ai vu que il avait besoin de m'emmener à cet endroit-là et ça se voit un peu trop. Comment est-ce qu'on essaye d'affiner cette tangente un peu désagréable pour le lecteur? Oui, Olivier, je pense qu'Antoine ne va pas répondre tout de suite.
Oui, il me tend le micro.
Non, c'est pour qu'il y ait une passation de voix.
En fait, j'ai une aversion effectivement toute particulière, et je pense que plus on lit, plus on a ce genre de haine finalement du Deus ex machina, de ce qui n'est pas logique finalement dans un roman, parce que comme le disait très bien Antoine, on a beau être dans un monde avec des épées et des boules de feu, il faut quand même que les comportements, les caractères et les événements se déroulent de manière plus ou moins logique. On dit très souvent que la réalité dépasse la fiction. Parce que quand on regarde certains articles de journaux, il y a des choses qu'on n'aurait jamais osé écrire. Moi, je donne un exemple qui date d'hier, par exemple, c'est une très jolie fille aux États-Unis, pom-pom girl, qui avait un ami qui était probablement très intéressé par elle. Excusez-moi, c'est une petite parenthèse parce que je trouve ça assez intéressant. Très intéressé par elle, qui lui était en surpoids. Enfin, très clairement, la relation était assez à sens unique. Et en fait, un camion est arrivé, a failli écraser la fille. Le garçon s'est jeté sur le pour sauver la fille, a réussi à faire rouler la fille de côté, s'est pris le camion, s'est retrouvé à l'hôpital. Là, il a les deux jambes dans le plâtre, enfin trois membres dans le plâtre. Et la fille qui dit, bah voilà, formidable, c'est
mon héros.
Mon héros, etc. C'est le genre de choses, typiquement, quand on voit ça dans un roman, on dit, mais c'est pas possible, ça. C'est... Voilà, donc, fin de cette parenthèse, mais comme c'est arrivé hier, je m'étais dit que c'était.
On sait pas s'ils vont finir ensemble. Oui, hein,
La fin n'est pas écrite.
Il était déjà mal parti, maintenant il a trois membres dans le plâtre.
Exactement.
Je suis pas convaincu. Mais par rapport à ça, il y a quelque chose dans mon premier roman, donc qui était un polar, qui était Les talons hauts rapprochent les filles du ciel. Comme on disait, donc en tant que scripturant, je ne savais pas exactement où j'allais, et mon héros se retrouve à 1h du matin dans un coin malfamé de Paris, donc ce n'est pas de la fantasy, hein, c'est du polar, face à un digicode, face à un hall d'immeuble, et il n'a pas le code, et il veut rentrer évidemment pour trouver quelqu'un à l'intérieur. Et j'ai envisagé tous les scénarios possibles, je me suis dit il va attendre que quelqu'un arrive et du coup se faufiler à l'intérieur. Ou alors il va faire comme dans certaines séries, il va mettre de la farine sur les touches pour essayer de voir si des touches ont été utilisées.
Parce qu'il a de la farine sur lui, bien sûr.
Parce qu'il a évidemment de la farine, bon, il avait de la cocaïne sur lui. Il aurait
toujours envie de faire des crêpes.
Donc j'ai vraiment essayé d'envisager un peu tous les scénarios. Et finalement, je suis parti avec le plus logique, c'est-à-dire qu'il a fait « bon, bah tant pis, je rentrerai demain ». Et il est rentré chez lui. Donc c'est vrai qu'à certains moments, en fait, on se dit…
Quel twist
Allez, attention, le lecteur était surpris. Mais c'est vrai que dans certains cas, on se dit il y a quand même des limites au Deus Ex Machina. Et moi, personnellement, Olivier Guay, si j'étais dans un hall d'immeuble à Paris, devant un hall d'immeuble à Paris à 1h30 du matin, je pense que je rentrerais chez moi plutôt que d'attendre l'improbable visiteur de 2h du mat. Voilà. Merci de m'avoir tendu le micro pour ça.
Non, mais je pense que c'est peut-être la plus belle chose que j'aurais faite aujourd'hui, prendre le micro pour une si belle histoire. Oui, ben non, le Deus Ex Machina, oui, autant l'éviter, quoi. C'est quelque chose qui est devenu quand même relativement péjoratif. Une intervention divine qui va arranger une situation, c'est pas forcément au service de l'histoire. Cela dit, ce qu'on appelle Deus Ex Machina peut arriver dans la vie. Il peut y avoir effectivement
des camions,
des surprises, des choses qui vont faire que... le tout, c'est toujours de respecter une petite musique, en fait. Quand on écrit, c'est comme un morceau musical, il y a des moments où ça va monter, ça va descendre. Une musique, par exemple, quand on vous fait écouter un morceau, si vous ne le connaissez pas, on arrête au milieu du morceau, vous allez vous dire qu'il manque quelque chose, parce que c'est inscrit en nous, la musique. Vous allez dire, mais il manque, le morceau n'est pas fini. C'est exactement la même chose dans une action, dans un livre, dans les rebondissements. Il y a ces moments où effectivement le rythme va peut-être s'accélérer, ça va monter, on va être suspendu à quelque chose. Voilà, donc le Deus Ex Machina, il peut, je ne suis pas fondamentalement contre, mais en tant que lecteur, en tant qu'auteur, j'essaie de l'éviter parce qu'effectivement, il y a cette image-là qui est aussi assez mauvaise et ça peut paraître comme une solution de facilité.
Frédéric, bien sûr.
Un cas un petit peu particulier en ce qui me concerne, alors sur mes deux romans adultes, puisque moi, le souci que j'avais dans ces deux romans, c'est que justement, il existe une divinité créatrice, une entité supérieure qui a organisé le monde.
C'est pratique.
Et puis c'est elle qui raconte l'histoire. Alors ça, on s'en doute un petit peu à la fin du premier, on le sait clairement dans le deuxième. Mais voilà, donc le Deus Ex Machina, là, difficile de faire autrement. Voilà, on a un être tout-puissant qui fait régner son arbitraire sur l'histoire d'une certaine façon. Autrement dit, j'étais contraint d'utiliser ces ressorts dramatiques et les grosses ficelles, je ne pouvais pas faire autrement que de m'en servir. Alors j'avais choisi de le faire d'une façon un peu décalée quand même, c'est-à-dire en tirant vers soit le pastiche, c'est plutôt mon premier roman, soit carrément vers la parodie. Les manuscrits de Kinneret, c'est clairement une parodie. Donc allons-y pour les grosses ficelles, on les utilise à fond, et puis c'est pas grave, parce que de toute façon, on est là dans un deuxième degré qui permet de s'en amuser. Alors il faut savoir quand même que j'avais établi le plan d'écriture, en gros l'histoire de mes deux premiers livres avant de commencer vraiment à écrire le tout premier, puisque je savais que les deux histoires allaient aller ensemble. Je me suis retrouvé embêté après avoir fini le premier, parce que c'était l'époque où sortait le Da Vinci Code, et précisément les manuscrits de Kinneret se présentaient au départ comme un thriller ésotérique que j'avais pas forcément prévu d'écrire en forçant sur les grosses ficelles, mais voilà.
Là, c'est la mauvaise surprise de la réalité.
C'est la mauvaise surprise de l'actualité littéraire puis cinématographique, c'est que le Da Vinci Code, c'est le rouleau compresseur qui écrase tout. Et comment écrire un thriller ésotérique sérieusement en essayant de surprendre encore le lecteur après 3 ans, 4 ans, 5 ans de Da Vinci conneries. Il fallait y aller par l'humour, il fallait y aller par le décalage, le deuxième degré, et puis il fallait surtout pas y aller dans la demi-mesure, donc j'y suis allé franchement, quitte à rajouter des scènes qui n'ont pas d'utilité dans le récit, mais qui font partie des attentes dans ce genre d'histoire. La poursuite en voiture, le débat crypto-ésotérique, etc. C'est des passages obligés que j'ai vraiment apprécié de mettre en scène, en sachant très bien que c'était un exercice, un exercice surtout formel, mais ça ne m'a jamais dérangé, aussi bien en littérature que dans mon amour pour le cinéma américain, par exemple.
Donc là, je viens de me rendre compte que le Da Vinci Code, c'était pas parodique en soi, déjà.
Je ne pense pas.
Loïc.
Déjà, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Antoine. Je trouve que c'est très important. En fait, c'est pas la question de base, mais c'est vrai que l'aspect musical de l'histoire et du roman est primordial. C'est-à-dire que en effet, si on coupe un morceau de musique au milieu, tout le monde va se dire oui, il manque quelque chose. Et à un moment donné, si la musique évolue vers quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on a entendu précédemment, il va y aussi avoir une alchimie qui se brise. Donc c'est vrai que je pense que ce n'est pas propre d'ailleurs aux littératures de l'imaginaire, je pense que c'est propre à toute littérature, peut-être même c'est également le cas pour d'autres domaines comme le cinéma. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de. Cette petite musique est vraiment primordiale. Donc je trouvais ça assez intéressant de mettre ça en effet en avant. Alors après, pour la question d'elle-même, Deus Ex Machina, bon, c'est vrai que ouais, j'essaie d'éviter, parce que j'ai eu la chance de ne pas avoir de Da Vinci Code qui vient juste au mauvais moment, au mauvais endroit. L'idée, c'est bon, je pense qu'en effet, c'est un côté un peu péjoratif, hein, comme ce que les autres intervenants disaient, sauf justement quand c'est traité d'une manière totalement assumée, voire parodique, comme dans le cas de Frédéric. Alors c'est vrai que moi, dans mon cas particulier, dans Loire, par exemple, j'aime bien semer des petites graines, un peu d'une manière... que j'essaie de rendre un peu inaperçue ou un peu discrète, de manière à ce qu'elle germe après. C'est-à-dire qu'on peut avoir par exemple quelque chose qui se passe dans les premiers chapitres ou les chapitres du milieu qui paraissent sans importance en fait, et qui en fait permettent in fine ou au cours du roman d'expliquer un certain nombre de choses, en se disant « Ah oui, c'est à ce moment-là qu'en effet il y a 15 chapitres ou 20 chapitres plutôt ». Ce petit quelque chose qui s'est passé. Je pense qu'on fonctionne tous un petit peu, enfin plus ou moins consciemment ou inconsciemment, on fonctionne tous un petit peu comme ça. Et globalement, sauf cas particulier, j'imagine que la plupart des auteurs essaient en effet d'éviter l'histoire justement incroyable de la réalité qu'on aura peut-être un peu plus de mal à accepter paradoxalement dans la fiction.
En dehors du Deus Ex Machina, qui effectivement peut être péjoratif, comme l'a dit Antoine, il y a quand même le principe que le roman d'aventure ou d'action et le roman en fantasy tournent souvent autour d'un personnage principal ou d'un groupe de personnes qui sont les héros de l'histoire, et on ne comprendrait pas très bien que finalement ils ne soient pas un peu au-dessus du lot, ou qu'en tout cas il ne leur arrive pas plus de choses à eux qu'au reste du monde. C'est peut-être un petit peu... ces personnages centraux, on trouve ça souvent dans les romans un peu ados, où souvent on dit ah bah, l'héroïne, elle cumule toutes les qualités, il lui arrive jamais rien de mal, son fiancé est magnifique et pas gros, il passe pas sous un camion. Enfin voilà, il y a aussi peut-être une façon de présenter le personnage qui impose que ça soit à lui que les bonnes choses arrivent, ou que, en tout cas, ça soit lui qui croise les histoires les plus intéressantes. Sinon, c'est pas de lui qu'on parle, au final. Non ?
Oui, enfin, ça dépend aussi des codes qu'on utilise. Il y a plusieurs codes. Vous parliez des littératures jeunesse, où effectivement, il va y avoir un livre qui va sortir. Enfin, ça peut être dans n'importe quel autre genre également. Hein. Et tout le monde va, ça va marcher, tout le monde va essayer de reprendre les mêmes codes. Le beau vampire ténébreux et la jeune, jeune vierge voilà, qui est là en train de dire « Waouh, il est trop beau !» ça a été repris et repris.
C'est parce qu'il scintille.
Parce qu'il scintille, ouais, c'est ça. Voilà, après, il y a ces codes qui sont repris. Je pense que chaque auteur a aussi... des fois, ses envies, ses personnages, envie de créer des choses différentes. Le tout, c'est de réussir à créer un lien entre le lecteur et l'histoire. Que le lecteur puisse accepter ce qu'on lui propose. Donc, c'est fondamentalement, je pense qu'on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et rendre crédible beaucoup de personnages. Et des fois, il est question de moments, il est surtout aussi question de travail dans l'écriture, de choix... pour que ces événements-là arrivent à attirer vraiment l'attention du lecteur et créer une empathie. C'est ça, c'est là où finalement tous les rebondissements qu'on va pouvoir mettre en place vont être acceptés et que les lecteurs vont les vivre, ces rebondissements-là. Si on fait une histoire avec un personnage qui est vraiment...
badass,
des fois ça peut être cool. Mais des personnages avec lesquels on finalement qui vivent, qui meurent, on s'en fiche quoi. À la limite, on referme le livre quoi. Les rebondissements, ça intéresse pas. Faut qu'il y ait un lien, faut qu'il y ait une envie de suivre et de savoir ce qui va se passer. Aussi parce que les personnages, selon moi, créent l'histoire. C'est par leur choix, par leurs actes que l'histoire se fait. Ils n'en sont pas forcément victimes. Et du coup, ils créent. Ce qu'ils vont choisir va être super, super important pour la suite. Et du coup, s'ils sont totalement. S'il n'y a pas d'empathie qui se crée avec le lecteur, on n'aura pas du tout envie de savoir ce qui va se passer après. Quoi.
Loïc parlait de semer des petites graines. Moi, ça m'a semblé vraiment la chose intéressante. Antoine, vous parliez au début du principe de la fiction en série. Est-ce que, comme à la Sherlock Holmes, je ne sais pas si c'est une série que vous suivez, mais il y a ce principe de, il se passe des choses dès la première saison avec des détails qu'on ne remarque pas forcément et on les retrouve en saison 3. Voilà. Est-ce que tout d'un coup, dans le roman, c'est aussi facile de semer des indices dont parlait Loïc, ou est-ce que dans la mesure où vous ne structurez pas tout, c'est plus difficile de penser à tiens, dans 20 chapitres, ce que j'ai écrit au chapitre 1 me resservira. Est-ce que ça, c'est une difficulté ou est-ce que ça fait partie du plaisir d'écrire?
Je voudrais juste revenir sur les personnages, parce que c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs schémas. Donc en effet, on peut avoir des personnages, et le personnage peut être... on n'est pas obligé d'avoir un personnage qui est exceptionnel en tout point, tout roman. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un de relativement, entre guillemets, banal, enfin, au moment en tout cas où on le rencontre. Après, forcément, s'il reste banal pendant tout le roman, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais en soi, le personnage n'a pas forcément vocation à être un surhomme, la fille la plus belle de la planète. Enfin, je veux dire, ça, on peut avoir des personnages normaux qui paraissent en tout cas normaux ou même presque banals au départ et qui évoluent ensuite. Alors, c'est vrai que moi, dans mon roman, c'était un peu différent parce que j'ai pas de personnage principal. C'est-à-dire que l'action se déroule entre 4 et 6 endroits en même temps, et en fait, chaque chapitre passe d'un endroit à un autre. Donc, en gros, je dois avoir 2-3 personnages principaux par endroit. Donc, et c'est d'ailleurs une crainte que j'avais, parce que c'est vrai que, comment formule ça, quand on lit, on a tendance à s'identifier un peu beaucoup, ça dépend, aux personnages. Et en tout cas, il faut que ces personnages, en effet, créent de l'empathie. Donc en fait, moi, ce que j'ai essayé de faire, bon, après, c'est pas moi de juger si ça fonctionne ou pas, mais c'est justement, malgré cette multitude de personnages, c'est d'avoir une empathie qui soit forte, une possibilité d'identification qui soit peut-être multiple, c'est-à-dire qu'on puisse s'identifier peut-être à plusieurs personnages. Mais c'est vrai que sans avoir ce personnage, on va dire, qu'on suit, alors si je prends le cas un peu caricatural, qu'on suit depuis le début jusqu'à la fin et à qui il arrive un certain nombre d'aventures, je pense que, en effet, sur les personnages, on peut avoir, bon, souvent un, voire deux, voire trois personnages principaux, bon là c'est un cas un peu particulier, mais on peut aussi avoir des identifications à des personnages secondaires. Enfin, je ne sais pas si ça vous est arrivé en tant que lecteur, moi ça m'est arrivé d'avoir une affection, je parle purement en tant que lecteur, d'avoir une affection particulière pour un personnage secondaire. Alors peut-être que c'était très très bien joué de la part de l'auteur, ou peut-être qu'il l'a fait un peu inconsciemment, c'est-à-dire peut-être qu'il a écrit le roman sans vraiment considérer qu'on pourrait s'attacher autant à un personnage secondaire, mais en tout cas, enfin, dans ces cas-là, ça avait bien fonctionné.
Peut-être qu'il est sadique et machiavélique comme George Martin.
Et pour répondre après à la question, moi, encore une fois, hein, sur la dichotomie que j'avais fait tout à l'heure, scripture ou structurant, je pense qu'on est tous un petit peu l'un et l'autre. Hein. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas exactement ce que je vais écrire, je suis parfois surpris par les personnages, et je me doute que même quelqu'un qui se couche sans vraiment savoir exactement ce qu'il va faire, je pense qu'il a quand même une idée derrière la tête de l'endroit où il va aller. Donc c'est toujours moyen, un peu. Enfin, en tout cas, il a peut-être une idée, pas forcément de l'endroit final où il veut aller, mais de certains endroits par lesquels il veut passer, on va dire ça différemment. Dans mon cas, après, j'en ai déjà parlé, donc je vais plutôt laisser la parole à mes collègues.
Alors, pour revenir sur les deux questions, alors déjà la question du personnage qui est en effet passionnante, bah, il se trouve que je viens justement d'expérimenter quelque chose qui rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire que pour essayer de rompre avec le personnage qui a des qualités exceptionnelles, qui mène l'histoire, qui domine toujours les situations, même si c'est in extremis, je m'étais dit que j'allais écrire un roman dans lequel j'allais avoir des personnages volontairement fadasses, tout à fait ordinaires, qui n'ont absolument aucune prise sur l'action et qui sont un peu à la remorque d'événements qui les entraînent et dont ils n'ont même pas la compréhension globale. Et en contrepoint quand même de ce couple de personnages qui avait un caractère, plutôt un manque de caractère assez particulier, j'avais mis l'accent sur des personnages secondaires, alors eux qui venaient, qui rentraient dans l'histoire, qui en sortaient, et ce sont eux qui ont pris le dessus. Et le résultat a été si peu probant en ce qui me concerne que j'ai complètement laissé tomber le livre une fois terminé. Et je me suis dit que ça ne pouvait pas marcher parce que voilà, deux personnages centraux qui n'ont pas les qualités nécessaires pour mener une histoire, ça fait un livre où on s'ennuie, même si à côté on a des personnages secondaires qui sont eux riches en caractère, en histoire. Et s'ils ont des choses passionnantes à vivre et à faire vivre au lecteur. Et le résultat, bah, en fait, je me suis retrouvé un peu dans ton cas de figure, c'est que j'ai repris mon histoire à zéro et j'ai supprimé les deux personnages principaux et je me suis rendu compte que, du coup, le livre tient très bien, en tout cas, bon, de mon point de vue, bien sûr. Il est en lecture chez Mnemos, là, les échos que j'en ai sont très bons, ça devrait sortir l'année prochaine, et c'est un roman d'anticipation, et il n'y a plus de héros principaux. Il y a des personnages qui viennent, alors certains sont un peu récurrents, parce qu'il faut quand même un fil directeur, on est contraint sur ce sujet tout de même, mais ce sont des personnages qui ont une quinzaine, une vingtaine de pages, et qui doivent convaincre de leur existence en seulement 15 à 20 pages, et tout ceci à l'intérieur d'une histoire qui se déroule de façon globale à l'échelle d'un roman et non pas à l'échelle d'une nouvelle. Donc vraiment expérience, alors un peu traumatisante au début quand j'ai vu que ça ne fonctionnerait pas, assez gratifiante finalement maintenant que j'ai terminé ce travail et que je peux en parler avec plus de sérénité. Alors pour revenir à l'autre question sur les pistes, les fausses pistes, les éléments qu'on dissémine au cœur de l'intrigue, il est évident que ça fait partie des choses qui nous placent dans le côté structurant de l'écriture. veut dire qu'on a prévu ce qui va se passer, qu'on a déjà non seulement la structure, mais qu'on a aussi les fausses pistes qui pourraient mener à d'autres choses. Alors j'en utilisais dès le départ, et je les utilise toujours, mais comme j'ai plutôt basculé du côté structural, de la force, on peut dire, disons que c'est des choses que, qui peuvent disparaître, tout simplement. Si elles ne trouvent pas leur utilité à la fin, lors d'une relecture, on les élimine. Et à l'inverse, si la fin impose qu'on prépare un peu le lecteur à tel ou tel aspect, telle ou telle surprise, bah à ce moment-là, ce sont des choses qu'on rajoute. C'est évidemment tout un système d'aller-retour dans le texte, entre le début, le développement de l'intrigue et la conclusion. Et c'est un travail qui se fait jusqu'à la dernière minute, hein, jusqu'à vraiment le point de conclusion des dernières corrections. Donc ça peut s'étaler vraiment sur une très très longue période.
Olivier ?
Je vais répondre aussi aux deux questions, mais en commençant par la deuxième cette fois. Une des plus grosses claques que je me suis prise dans ma vie de lecteur, c'est quand j'ai commencé un cycle, qui est d'ailleurs que tout le monde n'apprécie pas forcément, mais qui s'appelait La Roue du Temps, de Robert Jordan, que j'avais découvert quand j'étais aux États-Unis, donc que j'ai découvert en anglais avant qu'il soit traduit en français, et je me suis enfilé 6000 pages, vraiment dans la foulée. Il y avait les 8 premiers tomes qui étaient sortis au moment où j'avais découvert ça.
Et vous avez la chance parce que moi j'ai commencé à 6.
Ah voilà. Et c'est, pour moi, c'était impressionnant parce que j'avais déjà lu, alors quand on lit les Neuf Princes d'Or, enfin du Dany, j'avais déjà lu des séries raisonnablement longues, Les Mondes du Fleuve, enfin un certain nombre de choses. Mais là, on arrivait vraiment dans un autre domaine avec quelque chose qui était une construction qui, pour moi, n'a encore jamais été égalée, même par George Martin, en termes de complexité d'univers, en termes de nombre de pages. On peut reprocher beaucoup de choses à cette série, mais pour moi, elle est incroyable. Alors, elle a été très mal traduite, je crois, on me l'a dit, mais en tout cas, en anglais, elle était incroyable. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que dans le tome 8, dans le tome 9, dans le tome 11, quelquefois on voit des allusions à quelque chose qui s'est passé lors du tome 2. Et c'est des... on est là, on dit « mais oui, c'est vrai, effectivement, il s'est passé quelque chose. Il a... »
Enfin, on en est là si on s'en souvient, ouais. Sinon on prend des notes sur voilà. La roue du temps parce que ça peut être un peu dense.
C'est ça, mais plus finalement le propos est grand, plus ça nous permet de rebondir, plus ça nous permet d'avoir des liens logiques et plus ça nous permet d'avoir une véritable cohérence dans l'histoire. Ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai beaucoup de mal personnellement, moi, à écrire des stand-alone, et j'aime bien faire des séries. Ce qui donc m'amène à l'autre question sur les personnages. En ce moment, j'ai 3 séries en cours, une en polar, donc une Le Boucher en fantasy, et une qui sort en exclusivité aux Imaginales, et dans une semaine pour la jeunesse. Et dans les 3 cas, il y a quelque chose qui me fascine, c'est vraiment les anti-héros. Et quand je dis anti-héros, c'est vraiment au point que vous ayez envie de leur cracher dessus. Donc mon premier roman, enfin mes romans policiers, le héros, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un loser, dragueur, dealer, paresseux, qui est uniquement là pour séduire les filles en soirée, pour vendre sa coke, pour pas être ennuyé, globalement lâche, pas vraiment beaucoup de qualité pour rattraper l'autre.
Là, je pense qu'on est au top des qualités.
On est au top des qualités. Bon, il a une belle gueule, ça le sauve, il a de l'autodérision, ça le sauve, mais en dehors de ça, c'est à peu près tout ce qu'il a pour lui. Alors, ce qui m'a fait très plaisir, d'ailleurs, c'était les articles de presse qui disaient « Oui, il s'est pris en exemple. » Ah, ok. C'est toujours très plaisir. Mais voilà, l'idée, c'était au fur et à mesure de la série de rendre ce héros sympathique. Et j'ai l'impression que ça a marché, puisque les gens ont suivi. Donc, c'était vraiment cette idée de faire un anti-héros. Dans Le Boucher, dans La Servante, c'est pareil. C'est-à-dire que finalement, le personnage qui prend le plus de place, c'est, comme le nom l'indique, au moins au début, c'est Le Boucher. C'est un personnage vieillissant, un peu à la Gemmell. C'est un personnage qui est très froid, qui est très cruel, qui a commis ce qu'on appellerait aujourd'hui des crimes de guerre, qui a des côtés limite un peu fascistes. Et malgré tout, on parlait de badass à un moment, malgré tout, l'objectif, c'est d'essayer effectivement et de réussir à intéresser le lecteur à son histoire et à finalement ses accomplissements. Et enfin, dans la série jeunesse qui va sortir, l'un des héros, c'est le racketteur du lycée. Je me suis dit que c'était bien.
Là aussi un modèle pour tous.
Là aussi un modèle pour tous. Mais je trouve ça très intéressant de jouer avec les codes parce que justement, ça permet de, pour revenir au sujet principal de la table ronde, enfin pour être sur le sujet principal de la table ronde, ça permet vraiment de rajouter des twists assez surprenants parce que c'est forcément des gens à qui toutes les emmerdes du monde peuvent arriver.
Alors justement, pour être sur la fin, et puisqu'Olivier parlait des séries, est-ce que pour vous, enfin des longues sagas plutôt que des séries, est-ce que pour vous... on peut envisager des livres qui soient à la fois qui s'inscrivent dans la longueur et dans la saga, et qui en même temps soient un peu autoconclusifs à chaque tome, c'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé d'attendre pendant une année et demie qu'enfin l'auteur nous donne la suite. Est-ce que le cliffhanger, un peu à la façon dont sont tournés les épisodes de Game of Thrones sur HBO, est-ce que vous préférez le cliffhanger qui laisse vraiment le lecteur dans une espèce de haine à l'égard de l'auteur, merci de me laisser dans cet état-là, ou est-ce que vous préférez tranquillement conclure chaque tome et tout en sachant qu'il y a une suite qui attend, ou voilà, quels sont vos choix à ce niveau-là? Antoine, allez, Prums.
Ouais, pour une fois que je suis Prums.
Antoine, premier roman, premier gros succès, premier... ça va quoi?
Non. Dans mon cas, c'était aussi un peu particulier, parce que quand j'ai proposé La Voix de la Colère à Bragelonne, je savais pas si j'allais être édité, j'avais pas forcément prévu d'écrire une saga ou une trilogie. Donc j'étais parti en fait sur l'idée d'une fin ouverte. Voilà, une histoire qui pouvait se clore, qui pouvait se suffire à elle-même, mais avec quand même un petit... On se dit, il peut se passer plein de choses derrière. Du coup, sur la fin cliffhanger vraiment brutale, moi j'ai un peu de mal en tant que lecteur, parce que je me dis, c'est des fois un peu trop forcé, c'est juste pour dire, ben attendez, ça va être trop super après.
revenez,
et un goût de revenez-y qui est peut-être un peu trop appuyé. Donc, moi j'aime bien un livre, pour moi, c'est une histoire qui va d'un point A à un point B, et à un point B, ben normalement on a déjà beaucoup de réponses aux questions qu'on a pu se poser, ou en tout cas il y a une évolution des personnages qui peut s'arrêter à ce point B là. Je vois pas trop appuyer les cliffhangers, du coup il peut y avoir un côté qui paraîtrait aussi commercial, qui ne servirait pas forcément l'histoire, le propos qu'on veut donner. Donc le principal, c'est encore le lien qu'on va faire entre le récit et le lecteur. C'est-à-dire le lecteur, même s'il a eu un premier tome avec une fin vraiment totalement fermée, s'il a aimé les personnages, s'il a aimé ce qu'il a lu, fatalement, il aura envie, ou heureusement plus que fatalement, il aura envie de retrouver ses personnages. Donc il n'y a pas forcément besoin d'utiliser un cliffhanger comme un artifice justement de séduction à ce point, parce qu'il ne faut pas non plus en abuser, ça risque de tuer le cliffhanger, et je ne veux pas que nous tuions le cliffhanger.
C'est trop de coups de théâtre,
le message,
tue le cliffhanger.
Exactement.
Loïc, est-ce qu'il y a une suite à l'horreur?
En fait, moi je suis assez en face, c'est-à-dire que je disais tout à l'heure que j'écrivais ce que j'aimais lire, et j'aime pas être largué en race campagne en fait à la fin d'un livre. Alors autant un livre où on a deux volumes, où on a une trilogie, et j'ai presque envie de dire on le sait dès le départ, bon, ben, là ok, mais c'est vrai que les grandes séries où en fait on n'a pas... Enfin, ce qui est important, c'est la notion de point d'arrêt en fait. C'est-à-dire que ça me choque pas qu'on ait une série de 15 livres, mais à condition qu'on ait des points d'arrêt un peu le long de la route. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple en science-fiction, la série de Dune, par exemple, il y a 6 ou 7, je ne sais plus...
8.
8, pardon, tomes. Mais chacun d'eux est un point d'arrêt. C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter après Dune, on peut s'arrêter après les disciples Dune, on peut s'arrêter après les enfants de Dune, ainsi de suite. Donc moi, en tant que lecteur, je n'aime pas trop. Donc en tant qu'auteur, je ne le fais pas trop. Voilà,
c'est gentil.
Maintenant, tous les goûts sont dans la nature. Hein. C'est-à-dire que moi, je pense que pour le coup, c'est pas quelque chose qui est complètement rédhibitoire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on retrouve dans un certain nombre de romans. On retrouve ça beaucoup sur la BD aussi. C'est-à-dire que la BD, on retrouve beaucoup de BD où il y a les deux premiers tomes qui sortent, et on sait que ça va être en 7-8 tomes, et que les autres ne sont pas encore forcément écrits ou dessinés. Moi ça m'ennuie un peu, parce que quand je suis dans une histoire, j'ai plutôt envie de la finir, plutôt que de me dire ok, ouais, j'ai un cliffhanger super, mais le prochain il sort dans 6 mois, et ça donne juste des envies de meurtre en fait. Donc
c'est ce que je disais
pour l'auteur. Et puis je trouve qu'il y a quand même un petit côté, alors ça dépend des cas, mais il y a un petit côté, bon là j'ai plus la BD en tête, mais un petit côté un peu commercial, c'est-à-dire qu'en fait on lance un ballon d'essai avec un ou deux tomes, ça marche, on sort les autres tomes, et puis il y a des cas où ça ne marche pas, et en fait on n'a jamais la suite, quoi. Donc c'est quand même assez frustrant en tant que lecteur, aussi bien de romans que de BD. Maintenant, le cliffhanger, en effet, ne tuons pas le cliffhanger. Je pense que autant le cliffhanger pour les chapitres, ça peut être assez intéressant, ou alors sur un volume, enfin une histoire en deux ou trois volumes. Maintenant, c'est vrai que le cliffhanger absolu où on arrive à la fin d'un livre et on arrête, on est là, ah, qu'est-ce qui va se passer, et que la suite sort dans un an, et que cette suite terminera aussi sur un cliffhanger avec une autre suite qui sort dans un an. Bon, moi je sais que je m'engage à la base pas dans la lecture purement en tant qu'auteur, je m'engage pas dans quelque chose où je sens que ça va être de ce style-là, parce que je trouve ça assez frustrant. Mais c'est un avis tout à fait personnel. Hein.
Oui, bah je rejoins complètement ce que viennent de dire mes deux camarades. Alors, je rajoute que moi, j'ai été à l'école de Gérard Klein. Au départ, quand j'ai commencé à écrire, quand je lui ai envoyé ce qui était la première version de la parallèle Bertov, il y a déjà un certain nombre d'années, la fin était beaucoup plus... elle restait ouverte, elle restait en suspens, on était dans le cliffhanger, et lui, il m'avait expliqué avec son point de vue d'éditeur que non, c'était vraiment le genre de choses qu'il fallait oublier, qu'on était confronté, enfin l'éditeur surtout était confronté à ce qu'il appelait le phénomène de l'attrition, c'est-à-dire en fait l'évaporation des lecteurs d'un tome à l'autre, phénomène qu'il jugeait totalement inévitable, aussi bien pour de petits, entre guillemets, romans que pour de grands succès. Et il m'avait cité les chiffres même de la saga Harry Potter, qui vérifiait effectivement sa théorie. En gros, à chaque volume, on perd des lecteurs, précisément à cause sans doute d'une certaine frustration de la part du lecteur qui se retrouve planté à la fin de son volume et qui n'a pas forcément envie, qui garde peut-être dans sa tête un certain ressentiment contre l'auteur, parce qu'il faut attendre un an, deux ans avant qu'arrive le tome suivant. Et c'est vraiment sur cette influence et sur ces conseils que j'ai décidé d'abandonner cette voie et de faire toujours des livres qui sont... qui essaient de se suffire à eux-mêmes, qui sont autonomes, qui fonctionnent. La difficulté étant quand même qu'ils fonctionnent, mais ils doivent aller ensemble. Donc ça pose un niveau de contrainte qui est quand même assez élevé. Il faut que chaque livre puisse se lire individuellement, il faut que chaque livre possède donc sa fin, un vrai dénouement, et en même temps, le lecteur doit bien sentir qu'il existe autre chose à côté, et que cette autre chose se trouve dans l'autre volume. Problème que j'ai rencontré également avec le projet Abraxa, que je n'avais pas prévu au départ, c'est vraiment Flammarion qui m'a demandé de travailler sur ce projet-là, puisque là je reprends un personnage qui apparaît dans le volume 2 du manuscrit de Kinneret, et j'en fais un volume, une histoire autonome. Et le gros souci que j'ai eu, ça a été de ne pas détruire avec le projet Abraxa ce que j'avais construit dans la parallèle Bertov et le manuscrit de Kinneret, ce qui devient extrêmement compliqué, sachant que les trois livres ne s'adressent pas au même public. Le projet Abraxa, c'est clairement pour des ados, en gros fin de collège, début de lycée, donc ils n'ont aucune chance d'avoir lu la parallèle Bertov et les manuscrits de Kinneret, et réciproquement, les lecteurs de romans adultes ont a priori peu de chances de se diriger vers mon roman jeunesse, même si mes romans adultes leur ont plu. Donc en fait, tenir compte de contraintes qui s'appliquent pour des publics différents, là ça a été un casse-tête, ça a été un vrai casse-tête. Je suis assez content, et notamment Georges, je crois, a apprécié que j'ai réussi finalement à ne pas contredire ce que j'avais fait dans mes deux premiers volumes.
Et le faire redécouvrir par des lecteurs qui ne l'ont pas encore, qui n'ont pas lu les précédents, à partir du principe que le personnage n'a pas les réponses qui viennent des romans précédents.
Olivier, pour finir.
Alors, pour finir. Aujourd'hui,
sur un cliffhanger, bien sûr.
Sur un cliffhanger. Aujourd'hui, que ce soit en fantasy, en science-fiction ou dans tous les domaines, on a une offre vraiment pléthorique en manière de livres, de littérature. Il suffit de voir là, les imaginales pour voir qu'il y a vraiment énormément de livres disponibles. Et dans ces livres, on a tous nos goûts. Donc, il y a des livres qu'on va aimer, des livres qu'on ne va pas aimer, des styles qu'on va aimer, des styles qu'on ne va pas aimer. Et je pense que ça vous fait la même chose qu'à moi, c'est-à-dire que très souvent on se retrouve avec des auteurs favoris, des gens dont on aime le style et on se dit bon bah peut-être qu'on sera déçu, mais normalement ça devrait nous plaire. Donc à partir du moment où on tombe sur des auteurs qui nous plaisent, à partir du moment où on tombe sur des histoires qui nous plaisent, qu'il y ait un cliffhanger ou pas à la fin du livre, moi en tout cas personnellement je suis assez fidèle en lecture. Donc,
En lecture,
bien sûr. Donc, cliffhanger, pas cliffhanger, les auteurs que j'aime bien, je vais acheter leurs livres, je vais essayer de découvrir leur univers. Alors, je dis pas que s'ils me déçoivent 5 fois de suite, je vais les passer à la trappe, mais de manière générale, je vais assez. Et concernant effectivement le fait, voilà, pour, dans mon cas particulier, normalement, je serais complètement d'accord avec les trois acolytes, c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire que tous mes romans policiers et là mes romans jeunesse, même s'il s'agit d'une série, ont une fin à chaque fois autonome, donc peuvent se lire de manière indépendante, voire même dans l'ordre qu'on veut. Par contre, il se trouve que quand j'ai présenté le roman du Boucher à la maison d'édition, c'était un roman de 1000 pages. Et l'éditeur a choisi de le couper en deux pour faire deux tomes, Le Boucher et La Servante. Donc dans le cas qui nous intéressait, on a choisi un moment qui était un cliffhanger, hein, un moment qui était fort dans le roman pour couper de manière un peu moins arbitraire que de dire on fait 500 pages. Et le résultat a été assez intéressant puisque je me suis fait insulter par beaucoup de monde, y compris par Elbakin d'ailleurs.
Pas du tout.
Voilà, en disant qu'est-ce que c'est que ça, comment est-ce que tu peux nous laisser ici, comment c'est permis, d'autant plus qu'il y a eu un an et trois mois d'attente entre les deux livres. Donc c'est vrai que sur les
festivals. Elbakin, on n'aime pas attendre.
Ouais, voilà, sur les festivals, je me suis fait insulter. Donc c'est terminé, c'est sorti, mais c'est vrai que je ne renouvellerai plus l'expérience parce que vraiment couper un livre en plein milieu de manière un peu arbitraire, c'était, pour moi, c'est une erreur.
Voilà. Bon, eh ben, on va mettre fin à cette conférence. Je suis désolée, il est très très vite alors parce qu'il est vraiment juste temps. Je veux. Petite. Non, pas à chacun.
C'est sur ce mental de créer vos rebondissements. Comment est-ce que vous procédez concrètement de faire un rebondissement?
Voilà, en une minute, ça va être compliqué.
Est-ce que vous avez prévu avant? Est-ce que. Quelle est la logique, la mécanique dans la construction du rebondissement?
Généralement, c'est après coup. C'est-à-dire, si on se dit oh là là, c'est génial, c'est que c'est génial.
Je crois qu'on va conclure là-dessus et sur le fait qu'on sait désormais que fadas c'est moins bien que badass.
Hein, ah oui,
d'accord.
Ça,
mais... voilà. Oui, merci à tous, bon. À tous les quatre, et merci à vous.
Ah oui, vas-y, oui.
Ça a été, messieurs ?
Failli dire que t'as pas. Non, c'est juste un exercice délicat. Ouais, mais...
c'est la phrase.